Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Campus 106,6 FM. Comme chaque mercredi à 17h30, c'est l'heure du STL Info. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandrine Rousseau, vice-présidente à la vie étudiante de l'Université de Lille. Sandrine Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Nous allons aborder aujourd'hui un thème qui est l'égalité homme-femme, ou femme-homme. Dans quel sens on va le prendre ?
Bon, on va le prendre déjà par l'inégalité entre les hommes et les femmes. Ce sera déjà bien.
Donc, je pensais que dans la fonction publique, il y avait égalité de traitement.
Alors oui, c'est ce que tout le monde pense et c'est ce que moi je pensais fermement avant de m'intéresser à ce sujet. Et en fait, égalité de traitement, mais pas complètement et surtout pas à l'université et surtout pas dans le corps des enseignants-chercheurs.
D'accord, donc effectivement on peut avoir recours à des statistiques, on peut faire des statistiques sur un peu tout et n'importe quoi et en faire dire ce qu'on veut. On peut peut-être avoir une idée par exemple au niveau des présidents, vice-présidents de l'université déjà. On va démarrer au niveau des échelons de responsabilité.
Alors au niveau de l'équipe de présidence, c'est très révélateur de la situation de l'université dans son ensemble, puisque on est, alors je ne sais plus, on doit être 7, quelque chose comme ça, et sur les 7, il y a 2 femmes, et par ailleurs, ce sont les 2 seuls maîtres de conférence de l'équipe, et tous les autres sont professeurs et hommes, ce qui est très révélateur de la situation à l'USTL.
Très bien. Si on prend les maîtres de conférence,
oui.
La proportion ?
Alors, si on prend les maîtres de conférence, on a à peu près un tiers de femmes, 2 tiers d'hommes.
Mmh. C'est une situation qui évolue dans quel sens ?
Alors, pour les maîtres de conférence, ça s'améliore. Dans le temps, c'est-à-dire qu'on progresse petit à petit, mais on progresse très très lentement. Très très lentement, puisque si on prend la proportion des maîtres de conférences qui ont entre 45 et 55 ans, on est à peine 3% de plus que ce qu'on a actuellement. Donc ça progresse, mais ça progresse peu. Et voilà.
Donc, est-ce qu'il y a au niveau de l'université une réflexion autour de ce thème et où est-ce que ça se traite ?
Alors, mais il y a une réflexion autour de ce thème, puisque moi, le titre exact que j'ai, c'est vice-présidente à la vie étudiante et à l'égalité homme-femme. Donc, il y a au moins une volonté politique de mettre ça sur le tapis. Mais le problème est qu'il faut vraiment essayer d'analyser les choses de manière assez fine, parce que sur cette question-là, il y a beaucoup d'idées reçues et c'est assez difficile de savoir d'où vient le problème et surtout comment le résoudre.
Est-ce que de la part de vos collègues, il y a une vraie volonté de réfléchir, sinon de concrétiser des choses dans ce domaine ?
Il y en a qui sont intéressés. J'ose espérer qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Il y en a aussi que cette problématique dépasse un petit peu.
Est-ce qu'on peut considérer que la proportion homme-femme a le même handicap vis-à-vis des femmes que... D'autres handicaps possibles, c'est-à-dire les gens issus des populations modestes et des gens issus des classes élevées.
Oui, alors je pense que ce qu'on retrouve sur l'égalité homme-femme, enfin, l'inégalité homme-femme, on le retrouve dans d'autres domaines. On le retrouve notamment sur les discriminations liées au nom de famille, par exemple, ou des choses comme ça. Alors là-dessus, moi, je n'ai pas fait d'études sur l'île 1 en particulier, donc je n'ai pas d'éléments là-dessus. Mais je me souviens d'avoir lu une étude, je crois que c'était l'OFIP qui l'avait faite, qui montrait que posséder par exemple un nom à consonance arabe était très discriminant tout au long de ses études. Donc évidemment l'inégalité homme-femme n'est pas le seul thème sur lequel on doit se battre, mais enfin comme on ne peut pas non plus se battre sur tout, voilà. Moi là actuellement je m'intéresse à l'égalité homme-femme, mais j'ai évidemment conscience que ça n'est qu'une partie du problème, et il y a l'autre vice-présidente est aussi dédiée à l'égalité des chances, et l'égalité des chances c'est aussi limiter les discriminations.
Alors donc pour les femmes qui ont envie d'accéder à des postes de responsabilité, soit donc de fonctions, j'allais dire, politiques de l'université, soit des fonctions professionnelles dans le cadre de l'université. Est-ce qu'on ressent réellement des barrières ou est-ce qu'il n'y a pas forcément la demande de ces femmes d'accéder à...
Alors ça, c'est assez difficile de faire la part des choses entre ces deux-là. Est-ce qu'il y a une autocensure de la part des femmes ou est-ce qu'il y a une censure inconsciente de la part des pères? Alors, j'ai pas tellement d'éléments pour trancher ça. La seule chose que je puisse dire, c'est que si on regarde par exemple le concours d'agrégation dans les quatre matières qui le possèdent, le concours d'agrégation, c'est ce qui permet de passer de maître de conférence à professeur. Donc c'est l'agrégation du supérieur. Si on regarde ce concours-là, la proportion de femmes candidates est absolument égale à la proportion de femmes maîtres de conférence. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de censure des femmes. Mmh. Par contre, à l'arrivée, les lauréats sont très majoritairement des lauréats hommes et à peu près sur les concours d'agrégation des deux années, enfin de l'année précédente et d'il y a deux ans, on s'aperçoit qu'un homme a à peu près deux fois plus de chances d'obtenir ce concours qu'une femme. Alors le problème, c'est de savoir quelle est la part de discrimination pure et quelle est la part de différence de dossier, parce qu'on passe ce concours-là quand on a à peu près entre 30 et 35 ans. C'est aussi l'âge auquel les femmes, par exemple, font des enfants. C'est bon. Donc il se peut très bien que les femmes aient de moins bons dossiers à l'arrivée à ce concours que les hommes. Mais en même temps, on n'en est pas complètement sûr. Donc voilà, c'est un problème...
Peut-être qu'on peut expliquer comment se passe cette sélection. Est-ce qu'il n'y a que le dossier ou il y a une partie communication vers un jury? Comment est-il composé?
Oui, il y a une partie communication vers un jury. Je crois que le problème fondamental qu'ont les femmes dans les carrières universitaires, c'est qu'elles s'investissent sur des choses qui sont peu visibles et donc peu reconnues par l'institution. Notamment, sur l'INA en particulier, les femmes s'investissent plus dans tout ce qui est responsabilité administrative ou pédagogique. Mais elles s'investissent plus dans les responsabilités administratives et pédagogiques moins visibles que les hommes. C'est-à-dire que, par exemple, les directeurs du FR sont très massivement des hommes, puisque je crois que sur 14 directeurs du FR, il doit y avoir 13 hommes et une femme. Donc là, c'est très visible, et là, ce sont des hommes. Par contre, si on regarde toutes les primes d'encadrement pédagogique, donc tous les directeurs des études, eh bien, on s'aperçoit que là, les femmes sont surreprésentées par rapport à leur proportion dans la population des enseignants-chercheurs.
Ça change quoi qu'un directeur du UFR soit une directrice ?
Mais ça, j'aimerais bien le savoir, parce que moi, je n'ai jamais connu de directrice du UFR, donc... Le principe aussi de sortir de cette inégalité homme-femme, c'est de se dire que les hommes et les femmes ne sont pas inégaux. Et donc, s'ils ne sont pas inégaux, c'est qu'ils sont égaux. Et moi, j'ai toujours un peu de mal avec le discours qui consiste à dire les femmes sont plus sensibles, les femmes sont plus ouvertes, les femmes sont plus pragmatiques. Parce que je pense sincèrement que ça n'est pas vrai pour toutes, qu'il y a des femmes autoritaires, il y a des femmes inorganisées, il y a des femmes... Mais en même temps, c'est pas ça qui doit justifier... et c'est pas ces qualités naturelles un peu qu'on attribue aux femmes qui doivent justifier qu'elles progressent. Ce qui justifie qu'elles progressent, c'est simplement qu'on ait des collègues égaux et que donc on doit progresser de la même manière les uns et les autres.
Si on prend la population qui entre à l'université, comment on peut définir le pourcentage hommes-femmes d'étudiants?
Alors ça, je n'ai pas encore les données. Je vais les avoir sur la population à l'entrée. Je ne les ai pas. Ce que je peux juste dire, c'est que si on regarde les 5% les meilleurs de chaque parcours de licence l'année dernière, donc en 2007, en juin 2007, si on regarde les 5% les meilleurs, les filles sont majoritaires. Mmh. Alors que normalement, je crois que sur l'INA, les garçons sont majoritaires dans les études. Donc, mais de toute façon, ça rejoint des études qui sont faites au plan national. Les filles réussissent mieux leurs études, mais font moins de doctorats, mais sont moins représentées après chez les maîtres de conf. Donc il y a... Alors peut-être que c'est les filles qui ne souhaitent pas continuer les études très longtemps, c'est possible. Je ne suis pas sûre que ça ne soit que ça. Je pense aussi qu'on les encourage sans doute moins à poursuivre les études que les garçons.
Mmh. Ça, je veux dire, il y a 50 ans, ça existait déjà, hein, ou 60
bien sûr.
Ans.
C'est terrible.
Donc on est toujours sur cette base que s'il faut sacrifier quelqu'un, les parents choisiraient plutôt la fille que le garçon?
Non, je ne crois pas que ça soit en ces bases-là, mais je crois que la problématique homme-femme a finalement peu évolué depuis les années 70. Et ça, c'est, ça a été ma grande surprise parce que moi, j'imaginais que les choses étaient quand même sur une voie ascendante et j'entendais surtout des discours qui disaient plus ou moins que maintenant, c'était, on avait plus de chances quand on était une femme de bien s'en sortir que quand on était un homme. Donc, vive les femmes, finalement, les hommes aspiraient presque à devenir des femmes et tous les chiffres contredisent quand même ça. Donc, vous disiez tout à l'heure que les statistiques, on peut les manipuler, mais on peut les manipuler jusqu'à un certain point, là. Donc non, on ne sacrifie pas les femmes, mais en même temps, il y a des mentalités, on peut évoluer.
Ça a changé quoi que en France, il y ait un secrétariat d'État aux droits de la femme?
Bah, écoutez, je me le demande, c'est pareil, sur le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, il y a un service dédié à l'égalité homme-femme. Et pour autant, je ne vois pas d'évolution massive. Mais c'est pareil, hein, sur le travail domestique, on a beaucoup dit que les hommes ne faisaient pas grand-chose à la maison. Et si on regarde les statistiques du travail masculin à la maison, on s'aperçoit que depuis les années 70, ça a progressé de quelques minutes sur la semaine. Enfin, quelque chose de ridicule, quoi.
Pour faire évoluer les choses, vous comptez plutôt sur les hommes ou sur les femmes ?
Eh bien, j'ai l'habitude de dire que le jour où les femmes seront féministes, il n'y aura plus d'égalité, il y aura plus de problème d'inégalité homme-femme. Je suis convaincue que le jour où les femmes s'empareront vraiment de cette problématique, on n'aura plus de problème. Je crois que à la fois les hommes ne se posent pas la question, donc le fait de ne pas se poser la question, c'est aussi un moyen de ne pas soulever le problème. Et en même temps, les femmes acceptent assez volontiers finalement cette situation et intègrent ce rapport de domination quand même un peu sans trop se poser de questions. Ça, c'est ma grande interrogation. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Quelle différence vous faites entre féministe et antisexiste ?
Je ne connaissais pas le terme d'antisexiste, donc je ne sais pas.
Selon vous, quel serait le plus approprié au combat à mener ?
Mais moi, je sais que le terme est galvaudé, mais moi, j'aime bien le féminisme parce que c'est... Le féminisme a quand même porté de grandes choses aussi. Ça a été des grands mouvements. On a vu des... des choses sortir de ces mouvements-là qui sont, à mon avis, très belles. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui, c'est si désuet de parler de féminisme. Donc, j'aime bien ce mot.
Est-ce que vous sentez chez, j'allais dire, les jeunes, donc l'avenir, un réel désir de s'emparer, j'allais dire, des manettes ?
Alors, absolument pas. Et c'est ma grande inquiétude. Absolument pas. Et j'ai plusieurs éléments pour dire ça. Le premier élément, c'est que si on regarde, par exemple, les élus étudiants, on s'aperçoit que les hommes sont ultra majoritaires et qu'il y a très peu de filles élues étudiantes. Ce qui signifie que la relève, si vous voulez, ne laisse pas augurer une participation des femmes très forte. Et si on regarde aussi les statistiques de progression des filles dans les études, et notamment les études scientifiques, on s'aperçoit que non seulement ça ne progresse plus, mais dans certaines disciplines, ça a tendance à régresser. Donc non, les jeunes générations ne s'emparent pas de cette problématique et les jeunes générations finalement reviennent à un système antérieur. Ce qui, bon...
Il y a quand même des militantes. Est-ce que vous pouvez les trouver dans un domaine d'études particulier, ces militantes ? Elles sont forcément sociaux, forcément...
Chez les enseignants-chercheurs, historiquement, elles sont un peu en sociaux, mais quand je lance un groupe de travail et de réflexion sur la question, j'ai des réponses de tous les UFR. Mais par contre, j'ai principalement des réponses de femmes.
Dans la vie politique, on essaie d'obliger les listes à respecter hommes-femmes, un certain paritarisme, on va dire. Est-ce qu'on peut imaginer des quotas dans le recrutement, fonction publique, notamment dans l'université ?
Mais je souhaite de tout cœur qu'on n'en arrive pas là. Je souhaite de tout cœur que ça ne se produise jamais. Mais en même temps... Il faut pour ça aussi montrer de réels signes d'évolution. Mais je crois qu'à Lille-1, il y a une volonté, parce que je suis très suivie par le président de l'université sur ce thème-là. Donc je crois qu'il y a une réelle volonté de faire avancer les choses. Et j'espère sincèrement qu'on n'en arrivera pas à mettre des quotas. Mais en même temps, moi, ça ne me semble pas une solution non plus complètement à écarter.
qu'est-ce qu'on pourrait dire de façon positive à vos collègues, d'une manière générale, à vos collègues hommes en particulier, pour favoriser cet équilibre? En quoi ça peut rendre service à tout le monde, à la communauté universitaire notamment?
Mais rendre service, je ne sais pas si c'est réellement ces termes-là que ça se pose. À mon avis, ça se pose simplement en termes d'équité et d'éthique. C'est-à-dire, on est des gens civilisés, dans un monde civilisé, et on a tous les mêmes droits. Donc, partant de là, si on a tous les mêmes droits, l'éthique veut qu'on respecte à égalité toutes les communautés. À supposer que les femmes soient une communauté, d'ailleurs. Mais, et donc, c'est tout. C'est un principe éthique de fonctionnement entre les individus. On ne doit pas discriminer simplement sur la base d'une femme. Mais cependant, je pense que la discrimination est quasiment à 100% inconsciente. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait une volonté délibérée d'écarter les femmes des fonctions à responsabilité, ça j'en suis à peu près convaincue. Mais par contre, il y a encore des phénomènes inconscients qui sont très forts pour limiter l'accès de ces femmes.
Dans les établissements d'enseignement où on enseigne la communication, il y a par contre beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer, ou vous ne pourriez pas vous appuyer sur ces jeunes communicantes pour justement faire évoluer les discours et par la suite les mentalités?
Ah si, sans doute que c'est un levier très fort pour faire évoluer les représentations et les mentalités, mais c'est un gros travail. Donc à mon avis, il faudra plusieurs étudiantes en communication pour faire lever les choses.
Alors comme les étudiantes en communication sont relativement peu à Lille 1, mais plutôt à Lille 3, est-ce que des passerelles existent?
Alors on a beaucoup de synergie entre Lille 1 et Lille 3 là-dessus. Je travaille beaucoup avec Colette Lamarche, qui est mon homologue à Lille 3. Et alors moi, je ne suis là que depuis un an, donc forcément, on a très peu d'antériorité. Mais on essaye vraiment de monter des choses en commun, et notamment des journées sur la question, et sur la question précise de l'ambition des filles dans les études. C'est-à-dire qu'on voudrait, par cette journée d'études, essayer de faire la part des choses entre les représentations et la discrimination, c'est-à-dire est-ce que les filles en entrant en première année ont une vision de leur ambition qui est différente de celle des hommes? Est-ce qu'elles n'ont pas la même ambition que les hommes? Ou est-ce qu'au contraire les ambitions sont absolument identiques, et dans ces cas-là c'est qu'il y a un problème dans l'organisation des études qui fait qu'elles ne poursuivent pas les études aussi loin que les hommes?
Est-ce que l'égalité homme-femme est un thème qui intéresse et qui débouche sur des mémoires ou des études qui sont menées dans le cadre, par exemple, de sociologie à l'Université de Lille?
Alors, d'après ce que j'en sais, parce que j'ai pas fait complètement le tour de la question, mais d'après ce que j'en ai vu, il y a énormément de maîtres de conférences femmes qui travaillent sur le sujet. C'est sans doute quand même aussi le signe qu'il y a un problème, qu'on sent un problème de plafond de verre, et que du coup, c'est sans doute aussi un moyen d'alerter. Donc oui, il y a beaucoup d'études. Mais ce qui est très surprenant aussi, c'est que ça reste entre soi. C'est-à-dire que les journées d'études, les colloques sont sur ce thème-là. Moi, j'ai très peu vu, et sincèrement, très très rarement vu, de thèmes, par exemple, dans des colloques en économie sur un thème comme, je ne sais pas, la responsabilité des entreprises ou des choses comme ça, où il y ait quelque chose de spécifique sur l'inégalité homme-femme. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à cette question-là, on fait quelque chose sur cette question-là, et du coup, ne viennent que les gens qui sont déjà intéressés par cette question-là. Donc c'est un peu l'histoire du chat qui se mord la queue, quoi.
Tout à fait, oui. Donc, est-ce que ces études, une fois qu'elles existent, sont publiées ou présentent un intérêt pour la presse écrite ou...
Ah ben bien sûr, il y a des choses qui sont levées, qui sont très très intéressantes. J'ai vu récemment sur l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, des données par exemple sur la vie d'un étudiant et d'une étudiante qui sont très intéressantes, sur l'argent de poche, enfin sur l'argent donné par les parents, sur les filles par exemple travaillent plus que les garçons pour financer leurs études. Donc, et malgré ça, elles réussissent mieux leurs études. Donc, non, il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment sur le site de l'OVE, Observatoire de la vie étudiante.
Donc, ce site-là, c'est un site internet également. Oui. Hein, donc, on peut y accéder avec un moteur de recherche, tout ça.
Tout à fait.
Est-ce que sur le site de l'université, il y a des éléments intéressants qu'on peut aller chercher ?
Alors, à ma connaissance, non, mais j'espère bien que dans le nouveau site qui est en cours de préparation, il y aura quelque chose de dédié à ça. Mmh. Mais par contre, l'université fait déjà un effort de communication très important dans le bilan social. Vous savez que chaque année, il y a un bilan social qui est édité, qui reprend toute la vie professionnelle des gens de l'université. Et là, depuis quelques années maintenant, et notamment à l'initiative de Martine Carrette, le bilan est sexué, c'est-à-dire qu'on sait la part d'hommes et la part de femmes qui ont des promotions, la part d'hommes et la part de femmes par emploi, etc. Et ça, déjà, ça nous donne quand même un très gros élément de communication et sur lesquels les journalistes peuvent très bien s'appuyer pour des analyses, par exemple.
Si on prend cette situation à Lille, est-ce qu'elle est identique dans les universités de la région, voire en France, voire en Europe ?
Alors, je n'ai pas d'éléments par rapport à Lille 2 et Lille 3. La seule chose que je puisse dire, c'est que la situation de Lille 1 est pire que la situation des autres universités françaises en moyenne. Mmh. En moyenne. Je peux aussi dire que ça ne s'explique pas par un substrat régional, puisque si on regarde la proportion, par exemple, de femmes cadres dans la région Nord-Pas-de-Calais, elle est à peu près identique, à quelques virgules près, à la proportion de femmes cadres dans le reste de la France. Donc il n'y a pas de substrat régional, mais par contre, il y a une différence avec les autres universités de notre université à nous. Et qui ne s'explique pas par le fait que ce soit une université scientifique, puisqu'on est pire que les autres universités scientifiques.
D'accord. Au niveau de l'Europe, il y a des gens qui s'intéressent aussi à ces sujets ?
Alors, ça fait partie des thèmes qui sont développés au niveau européen, oui, plus finalement qu'en France.
Est-ce que justement, le fait qu'à Lille 1, ce soit quand même une situation un peu critique, ne vous permettrait pas de mobiliser des financements européens pour réaliser un colloque d'ampleur sur le site ?
Mais ça fait partie de mes projets, oui, ça fait partie de mes projets, et je rencontre très prochainement quelqu'un sur ce sujet-là pour en discuter, oui. Mmh.
Est-ce que vous sentez épaulé, par exemple, dans la région ? Je crois qu'à la préfecture de région, il y a quelqu'un qui s'occupe des droits de la femme.
Oui, alors je l'ai rencontré une fois, mais c'est de ma faute aussi. C'est que je ne me suis pas encore complètement tournée vers tous les acteurs de cette question-là.
Préfète à la ville aux droits de la femme, je crois, quelque chose comme ça. Préfète aux droits de la femme.
Préfète aux droits de la femme. Non, mais je sais pas. Mais là, je commence un peu juste à déblayer ce terrain-là. Et il fallait que je me fasse une idée sur Lille 1. Donc là, pour l'instant, j'ai un peu essayé juste de créer une dynamique entre Lille 1 et Lille 3. Enfin, Lille 3 est d'ailleurs venue me chercher pour créer cette dynamique. Et j'ai essayé de créer une dynamique à Lille 1 d'un groupe de travail, d'essayer de s'interroger collectivement sur ces questions-là. Je ne suis pas encore allée voir ailleurs partout.
Est-ce que les étudiants et les étudiantes sont contactés, peuvent se mobiliser, peuvent vous rejoindre, rejoindre vos travaux, vos réflexions, vos actions ?
Les étudiants. Mmh. Alors là, j'ai lancé un groupe de travail sur les enseignants. Les étudiants, je comptais le faire dans un second temps, parce que les étudiants, c'est une problématique qui me semble beaucoup plus compliquée que les professeurs, parce que les professeurs et les maîtres de conf. Sur le personnel EITOS, que je ne cite jamais, je le cite jamais parce qu'il y a moins de problèmes. Hein. C'est une catégorie qui est moins... Les différences sont moins perceptibles. Alors sur les étudiants, la problématique me semble beaucoup plus compliquée et surtout me semble nécessiter beaucoup plus de travail pour faire évoluer les choses, parce qu'il y a tout un travail en amont vers les lycéens qui doit être mis en œuvre. Après, il y a tout un travail dans toutes les filières de l'université. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore lancé le côté étudiant, mais évidemment, évidemment que je le ferai. Voilà.
Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? Sinon, qu'est-ce qui vous manque ?
J'ai les moyens de mes ambitions au sens où j'ai beaucoup de personnes intéressées sur ça. Donc ça me donne quand même des appuis forts. Mais je manque évidemment d'appui administratif, c'est-à-dire que personne n'est dédié à ça dans l'administration, et par ailleurs, je n'ai aucun budget, donc ça limite quand même un peu...
On peut en profiter pour réclamer. Hein.
Oui, je réclame du budget.
Voilà, voilà.
Philippe Rollet, si tu m'entends, donne-moi du budget.
L'appel est lancé, nul doute qu'il sera soutenu. Voilà, donc en termes de conclusion, comment vous voyez l'avenir pour les femmes à partir de l'université, mais aussi dans la société d'une manière générale? Je pense que l'un peut influer l'autre.
J'ai l'impression qu'il faut vraiment se reprendre en main là-dessus. Et je crois qu'il faut... Il est temps de se reposer les questions de l'égalité. Parce que là, en plus, on va arriver bientôt au 8 mars. Alors, le 8 mars, qu'est-ce qu'on va entendre à la radio? On va nous dire « Oh, mais il y a 16% d'écart de salariaux entre les hommes et les femmes à fonction égale. » Et puis voilà, le 9 mars, on l'aura oublié. Et pour autant, cet appel-là, ça fait au moins 10, 20 ou 30 ans qu'il est lancé et que ça ne bouge pas. Donc il est temps qu'on reprenne en main les choses. Et je pense que c'est par les femmes que ça passe, puisqu'il faut que ce soit nous qui prenions conscience du problème.
Mmh. Il y a une actualité à venir de projets ou d'événements qui pourraient être programmés? Je vois qu'il y a une superbe maison des élèves maintenant. Mmh. Comment les femmes peuvent y trouver leur place?
Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi. Et si mes souvenirs sont bons, mais ça, il faudrait vérifier. Je crois que dans le conseil permanent de la maison des étudiants, je me demande s'il y a une seule femme représentante étudiante. Je n'en suis pas sûre.
Est-ce qu'on peut avoir également, à partir de là, une idée des représentations des étudiantes dans les élections qui ont lieu chaque année dans l'université?
Sur les résultats, vous voulez dire sur les élus? Alors, dans ce que je vois dans les conseils, je n'en vois pas beaucoup, j'en vois une. Si sur la liste des élus totalement, ça, je n'ai pas les données là-dessus. Il faudrait que je regarde quelle est la proportion de femmes élues.
Est-ce que faire appel à ces étudiantes pour postuler sur ces listes pourrait également vous aider, vous donner du poids dans vos démarches?
Bien sûr, mais pas que les étudiantes, aussi les enseignantes chercheuses. Il faut absolument se présenter sur les listes, parce que dans les conseils, il y a une sous-représentation des femmes de manière très massive, puisqu'on est à peu près à 80% d'hommes, 20% de femmes. Et sur les listes étudiantes, il y a aussi une sous-représentation des filles. Donc, femmes de tout statut, présentez-vous et militez.
Bien, merci Sandrine Rousseau, au plaisir donc de vous accueillir sur Radio Campus pour ce magazine USTL Info. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Dans quelques instants, ce sera Villeneuve Mag avec Noémie sur Radio Campus 106,6 FM.